J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs. Puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery.
Lock and Key, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est très simple. C'est l'histoire de la famille Locke, dont le père, Rendell, est conseiller d'orientation.
Ouais.
Et qui, en fait, après avoir essayé de conseiller certaines personnes, va être tué dans sa maison, obligeant sa famille à déménager dans la maison familiale qui se trouve dans la ville de Lovecraft.
Dans le Massachusetts.
Dans le Massachusetts. On trouvera donc là-bas sa femme et ses trois enfants, Tyler, qui est le grand frère, Bud, qui est le petit frère, Kinsey, qui est la middle et qui est du coup la jeune fille, Nina, la maman, qui vont du coup rencontrer là-bas Duncan, l'oncle des enfants, qui est aussi un personnage homosexuel. Donc c'est pas grand chose, mais en 2008 c'était encore un petit peu tender de mettre ça, et il a mis ça sans aucun problème. Et ils vont en fait découvrir Bud en premier, donc le plus jeune, découvrir des clés faites dans un alliage assez étrange qui du coup va permettre d'avoir quelques effets que du coup je ne peux pas dire comme ça à la radio. Bon, parlons simplement de la clé de la tête qui permet en fait d'ouvrir son crâne, son cerveau, et d'y ôter tout ce qui nous dérange, nos peurs, nos émotions, notre tristesse,
les souvenirs.
Voilà, tout va être vraiment mis pour amener le lecteur vers Dodge. C'est le méchant qui a déjà été enfermé par Rendell plus tôt, des années auparavant, et qui va du coup ressortir d'un seul coup.
Et moi, c'est un méchant qui m'a. Je l'ai trouvé. Il est ignoble, mais en même temps, il est séducteur. Tout le long du. Enfin, t'as l'impression qu'il a 10 coups d'avance sur tout le monde tout le temps. Dès qu'il fait. Enfin. Et il y a plein de moments où je me dis, oh non, il va pas faire des trucs comme ça. C'est pas. Il peut pas être aussi cruel. Ah non, si, il s'en bat les couilles, il n'a aucune.
Et c'est ça, c'est ça du coup qui est intéressant quand on regarde Lock and Key par rapport à l'œuvre de Joel. Le premier tome va commencer comme du Stephen King. Mais au final, on va s'orienter petit à petit vers la véritable marque de fabrique de Joel, qui est vraiment, comme je vous le disais plus tôt, cette passerelle entre Neil Gaiman, qui est le maître du fantastique, et son père, Stephen King,
oui,
qui est le maître du fantastique horrifique. Réussir à donner à ces personnages, même aux méchants comme Dodge, un côté méchant, mais en même temps un côté assez rationnel et sensible. C'est ça. C'est l'humanité qu'il incarne dans ses personnages. Et ça, c'est grandiose. Qu'on suive Tyler qui essaye d'arriver à surpasser le décès de son père, Kinsey qui, elle, essaye de surpasser la tristesse qui est due à la perte d'un membre de sa famille. Et enfin, Bud qui, lui, va essayer de grandir dans tout le marasme de cette tristesse. C'est des personnages qui sont authentiques. Et ça, c'est la grande force de Joel. C'est pour ça que du coup, quand j'ai vu les critiques dire ça, j'ai quand même lu quelques trucs qui vraiment répudiaient l'auteur en disant « c'est de la merde, une fin comme ça ». Ils ont cité Lost, d'ailleurs, par rapport aux fins. Mais je me tairai là-dessus.
C'est pas étonnant.
Je trouve qu'au contraire, avoir réussi à mettre cette fin, donc je ne citerai pas, c'est un choix et un parti pris de l'auteur. Et c'est une grande force de réussir à finir sa série en laissant quand même une petite ouverture. Voilà, donc c'est, je pense, et comme beaucoup de mes collègues qui sont simplement des libraires ou au contraire des directeurs de librairie, Lock and Key est le meilleur comics qui existe depuis 2010.
Moi, c'est un de mes comics préférés, mais je sais pas si je dirais le meilleur. Est-ce que Romain, t'as un petit avis à donner sur le
titre ? Moi, je trouve que c'était un super comics, et c'est clair que les personnages sont super bien écrits. On comprend vraiment toute la tristesse, et ça part du coup du meurtre du père. On voit tout ce qui se passe au niveau de toute sa famille pendant ce meurtre-là, et ça va affecter chaque personnage différemment. Il y a la sœur qui a tenté de protéger son petit frère, qui va réagir justement en fonction de cette inaction. Il y a le grand-fils qui a essayé d'aider son père, qui va du coup, il a un autre problème, et
mais il a la culpabilité aussi,
voilà,
parce qu'il est un peu enclenché le truc de la mort de. Enfin, dans sa tête, c'est comme ça. C'est parce que. On spoil juste le premier. À un moment, il dit à un personnage : j'aimerais que tu tues mon père. Et finalement, ce personnage va tuer son père.
Il s'en rappelait même pas sur le coup.
Et ouais,
c'est ça qui est assez fort. C'est que c'est des paroles anodines qu'on prononce.
Oui, tout le monde dit
comme un ado dit j'aimerais que mon père soit mort, etc. Bah, sauf que là,
voilà, c'est poussé à fond.
Il y a quelqu'un qui l'a écouté.
Ouais. Et